Merci.
Record.
Merci Jean-Louis. Nous allons aujourd'hui travailler sur le texte intitulé La liberté du point de vue éthique. Nous avons commencé par constater avec Jacques de Montléon que la liberté était une question qui pouvait être posée à différents niveaux, au niveau de la nature, au niveau de l'obligation morale, au niveau politique et plus profondément peut-être, de façon plus fondamentale, au niveau métaphysique. Et c'est ce qui nous a arrêtés la fois passée. Quel est le problème métaphysique, comment métaphysiquement la question de la liberté se pose. Et nous avons vu s'opposer deux positions. L'une qui insiste sur l'absolu de la raison, au point de rendre difficile l'affirmation de la liberté, quoi qu'il en soit, de la conscience que nous avons d'avoir à poser constamment des choix. Et puis l'autre position, opposée à celle du rationalisme absolu, c'est celle d'un volontarisme absolu. Au XXe siècle, de philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre, qui ne donne pas d'autre fondement à la liberté que la liberté elle-même. Et ces deux positions nous laissaient dans une sorte de perplexité parce que elles ne rendaient ni l'une ni l'autre compte de façon satisfaisante de l'expérience fondamentale que nous avons du choix. Alors, le texte que nous allons parcourir aujourd'hui est plus court que celui de la fois passée, et donc on pourra aller plus lentement. J'admire toujours, je dis d'emblée, la capacité pédagogique de Jacques de Montléon. Il sait où il veut nous conduire. Ce qui lui permet parfois de nous donner quelques aperçus qui nous rassurent sur l'issue de la réflexion, comme celui que nous avions eu la fois passée quand il nous a parlé de la maîtrise du peintre, hein, qui s'efface devant son tableau, et c'est peut-être là le sommet de son art, et ça nous fait comprendre quelque chose de la manière de concilier l'action divine avec la liberté de l'homme. Et à plusieurs reprises dans le texte que nous allons lire, Jacques de Montléon suggère que l'expérience de l'amour nous permettra d'avoir une approche à la fois raisonnée et respectueuse de la réalité, de la question de la liberté. Mais il ne nous dit pas encore tout, loin de là, de l'amour. Donc, eh bien, il nous fait attendre la prochaine séance pour progresser sur le chemin, et c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, donc après avoir parlé la fois dernière de la liberté du point de vue métaphysique, il en traite d'un point de vue éthique. Alors, peut-être que ce qui pourrait nous surprendre, c'est que dans notre mentalité moderne, parler d'éthique, c'est de morale, c'est d'abord parler d'obligation. Et d'ailleurs, Jacques de Montléon lui-même, au début de sa réflexion que nous avons vue la fois dernière, s'est interrogé sur la conciliation qu'il y avait entre l'obligation morale et la liberté. Mais nous allons voir ici que la question éthique est plus large et peut-être plus profonde que celle de l'obligation morale. Au point de vue éthique, donc, j'ai le texte sous les yeux, vous pouvez le suivre. Encore une fois, on va pouvoir pratiquement le lire en le commentant, le lire entièrement en le commentant cette fois-ci. Donc j'ai le texte sous les yeux. Au point de vue éthique, sous quel aspect allons-nous parler de la liberté? en introduction, Jacques de Montléon distingue deux aspects différents sous lesquels la liberté se présente. Celui du pouvoir, de la maîtrise sur une. Bonjour Anita, sur une. Réalité qui nous est inférieure, puisque nous avons le pouvoir sur elle, puisque nous la maîtrisons, ou non plus le pouvoir dominateur, mais le choix. Alors, lisons la présentation de ces deux aspects sous lesquels se présente la liberté. Le premier aspect se réfère à ce que nous avons entendu la dernière fois à propos de la liberté de l'artiste. On l'avait vu dans l'introduction du texte et puis aussi à travers la belle comparaison que j'ai déjà citée du journal de La Croix. La liberté comporte en effet un aspect de maîtrise, de pouvoir, un aspect de domination. Effectivement, quand nous pensons à un être libre, assez spontanément, nous associons à ce que nous disons là, il est libre, le fait qu'il maîtrise, comme on dit aujourd'hui peut-être dans un langage qui n'est pas très châtié, celui des jeunes, je maîtrise. Hein? Donc, un homme libre est maître de tout ce qui tombe dans le champ de sa liberté, c'est-à-dire qu'il peut en user quand il veut et comme il veut. C'est la liberté sous cet aspect de pouvoir dominateur qui a été considéré à propos de la liberté de l'artiste. Celui-ci crée en toute indépendance, à la limite, il voudrait créer de rien. En tout cas, lorsqu'on parle de la maîtrise de l'artiste, c'est bien pour évoquer le pouvoir qu'il a sur la matière dont il se sert pour exprimer ce qu'il y a dans le tableau, donc la maîtrise de l'artiste. En dehors de l'art, nous retrouvons l'insistance sur cet aspect dominateur de la liberté, par exemple, chez Descartes, qui affranchit la volonté divine de toute dépendance. Il reprend, si Descartes, des théories qui l'ont précédé, qui avaient déjà cours au Moyen Âge, notamment dans le courant que l'on appelait le nominalisme, selon lequel, je poursuis ma lecture, Dieu peut faire des montagnes s'envader, probablement, il peut aussi faire que 2 et 3 fassent 6 ou 8. Hein, Dieu n'est même pas soumis. Finalement, au principe de non-contradiction. Il pourrait faire des choses qui sont en elles-mêmes contradictoires ou absurdes. Et si ça n'était pas le cas, nous mettrions Dieu sous une dépendance. On va penser Dieu comme affranchi de toute loi. Cette liberté, donc, conçue comme pouvoir absolu, lorsque Descartes parle de Dieu, elle reparaît dans le domaine politique, par exemple lorsque les philosophes traitent de ce régime et le régime du despote. Hein, le despote, celui qui s'est saisi du pouvoir politique et qui en use de manière tout à fait arbitraire, ou en tout cas comme les choses lui conviennent, sans être limité dans son pouvoir par les lois ou par des contre-pouvoirs. Et comme remède au libre pouvoir absolu, parce que le despote est souvent un tyran et ne gouverne pas pour le bien de la communauté, mais au contraire pour son seul intérêt, donc on veut s'en libérer, hein, on cherche un remède, et comme remède au libre pouvoir absolu d'un seul, on a proposé, chez Rousseau notamment, un despotisme partagé par tous. Hein, c'est-à-dire que ça n'est pas un individu qui est despote dans ce cas, mais c'est le cas de ce que Rousseau appelle la volonté générale, et qui est celle, dans sa pensée, de toute la collectivité. Hein. Mais que ce soit la volonté d'un despote dans le premier cas, ou la volonté générale chez Rousseau dans le second cas, dans les deux cas, cette volonté ne dépend de rien que d'elle-même. Elle domine toute chose dans la société. Elle est volonté collective au lieu d'être un despotisme particulier, mais c'est toujours cette idée d'une liberté comme maîtrise d'une réalité qui lui est inférieur et qui dépend de lui en tout, sans lui opposer aucune résistance ou aucune limite. Cette liberté, comme pouvoir et maîtrise, regarde au-dessous d'elle. Enfin, c'est probablement, si on nous dit ça, que le regard pourrait aussi se porter au-dessus et que alors les questions se poseraient différemment. Mais ici, la liberté comme pouvoir et maîtrise, que ce soit dans le cas de l'artiste, dans le despote ou dans ce que Rousseau appelle la volonté générale, elle regarde au-dessous d'elle, elle est tournée vers les êtres, vers les biens, vers les œuvres qu'elle tient sous sa domination. Au-dessus d'elle, dans la perspective des auteurs qu'on a déjà présentés, il n'y a rien. C'est-à-dire, ici, Descartes, quand il parle de Dieu, ou Rousseau, lorsqu'il parle de la volonté générale, au-dessus d'elle, il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, elle en dépendrait, la liberté, et elle cesserait, dit-on, d'être liberté. À partir du moment où la liberté dépend de quelque chose, elle n'est plus liberté. Alors, bien sûr, il faudrait interroger ce qu'on vient de dire ici. Hein. En tout cas, c'est une liberté absolue, hein, alors que la liberté pour être doit être absolue. Ça, c'est une question hein, qu'on pourra peut-être poser plus tard. En tout cas, ici, il s'agit d'une liberté de pure et simple domination, dans le cas de Dieu, vu par Descartes, dans le cas du despote ou dans le cas de la volonté générale selon Rousseau. Elle est liberté de pure et simple domination et elle n'a pas de place dans l'éthique. Alors on va voir pourquoi. Hein? Elle ne peut pas, la liberté, faire l'objet d'une réflexion éthique. Elle consiste plutôt dans le refus, dans la négation même de l'éthique. En effet, quand le pouvoir dominateur s'érige en absolu, il rejette toute règle supérieure établie par la raison. Un despote, voilà, qui n'a d'autres principes d'agir que sa volonté personnelle. Par exemple, quand on élimine la raison de cette façon-là, quand on cesse de voir dans la raison un principe fondamental, un principe régulateur du vouloir, il n'y a plus d'éthique au sens propre du mot. Alors, on voit encore une fois ici la tension entre la volonté et la raison, hein, et ici une affirmation absolue de la volonté qui évacue la raison. Mais évacuant la raison, elle évacue une réflexion raisonnée et raisonnable sur l'agir, qui aurait ses principes et des principes régulateurs du vouloir, qui s'opposeraient donc à une domination absolue. Aussi, pour le considérer au point de vue de l'éthique, c'est-à-dire encore une fois une réflexion raisonnée, raisonnable sur. Raisonnable et raisonné sur l'agir humain avec des principes de raison qui puissent l'orienter. Pour entrer dans cette perspective-là, nous allons la prendre sous un autre aspect. Donc, on peut d'abord la saisir comme pouvoir dominateur, mais on peut aussi la considérer sous un autre aspect, lequel? Pouvoir de choisir. L'acte par excellence de la liberté, c'est le choix. On peut se saisir de cette réalité d'une autre manière. Et on a déjà vu que, quoi qu'il en soit de la théorie que l'on a de la liberté, qu'on l'affirme, qu'on la nie, nous faisons tous l'expérience du choix. Alors on peut dire que c'est une illusion. En fait, on ne choisit pas ce qu'on croit choisir. Hein, ça, c'est un peu la position de Spinoza. Au contraire, on peut dire que finalement, la liberté n'a pas d'autre fondement qu'elle-même, donc il y a un choix qui reposerait sur rien. En tout cas, l'expérience du choix nous engage sur une réflexion, dans une réflexion sur la liberté. L'acte par excellence de la liberté, c'est le choix. Ça, c'est un fait d'expérience. Ensuite, on l'interprète différemment, mais ça, c'est un fait d'expérience. Alors, abordons la question en nous rappelant d'abord ce que nous entendons par les mots éthique ou morale. J'en ai déjà dit quelque chose, mais on va être plus précis sur ce point. Alors, qu'est-ce que nous appelons éthique, hein, et dont nous venons de dire que celui qui imagine pour lui ou pour un autre une domination absolue qui n'a pas d'autre principe qu'elle-même est exclu de la réflexion éthique. Alors, précisons les choses. Alors, éthique, ça vient d'un mot grec, éthos, qui est l'équivalent grec de mos, moris, hein, donc qui signifie mœurs, conduite, attitude dans l'agir. Hein. Le mot éthique couvre deux sens voisins. Au premier sens, il désigne une façon de se comporter, une façon de se comporter qui caractérise une espèce ou une catégorie d'animaux ou d'hommes. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle aussi d'éthologie, hein, pour parler, c'est cette approche scientifique du comportement animal. Hein. Donc, c'est la même racine, éthologie. Mais ici, ben, l'éthologie n'a pas de finalité ben, immédiatement pratique. Hein. Il s'agit d'abord d'essayer de comprendre comment les animaux... quelle est la logique du comportement animal? Tandis que bon, l'éthique a quelque chose de plus que l'éthologie, hein, puisqu'il s'agit aussi de savoir nous orienter, nous, humains, dans l'agir. Mais si on en reste au mot éthos, donc repris dans le mot éthologie, c'est moi qui l'ajoute au texte, eh bien on parlera des mœurs des insectes, des hommes et des esquimaux. Alors dans ce cas-là, on parlera plutôt d'ethnologie ou d'anthropologie aujourd'hui. En un autre sens, le mot éthique signale quelque chose de plus intime que les mœurs extérieures hein, qu'on décrirait, l'inclination intérieure qui porte les hommes à se comporter de telle ou telle manière, bonne ou mauvaise, qui convient ou qui ne convient pas. Le texte est très exact, hein, il dit le mot éthique signale quelque chose de plus intime. Ce n'est pas un sens du mot éthique, mais le mot éthique renvoie donc à l'éthos, non pas compris comme façon de se comporter et que l'on peut examiner extérieurement, mais comme l'inclination intérieure qui porte les hommes à se comporter de telle ou telle manière. Hein, on passe du sens du comportement extérieur à l'inclination qui porte les hommes à tel ou tel comportement, qu'on jugera bon ou mauvais, convenant ou pas. Mais de quelque côté, en quelque sens, que nous prenions ces mots de morale ou d'éthique, soit enfin, une description extérieure des comportements, soit une réflexion sur les inclinations intérieures qui portent à se comporter de telle ou telle manière. Eh bien, pour innées ou habituelles qu'elles soient, les inclinations, les façons de se comporter et de vivre, dans le cas de l'homme, ne relèvent jamais d'une simple impulsion naturelle ou instinctive, mais toujours plus ou moins parfaitement de la raison. Dès que nous touchons à l'humain, on n'est plus alors dans l'éthologie, mais dans l'éthique, nous sommes d'une manière ou d'une autre au contact, dans la mouvance de la raison. Alors, ces inclinations qui portent à agir de telle ou telle manière, elles sont, nous dit le texte, soit des impulsions naturelles, soit quasi inné ou inné, soit habituel. Hein, donc alors là, ce serait des dispositions profondes qu'on acquiert par la pratique et qui détermine notre comportement. On reconnaît effectivement les dispositions profondes d'une personne, on reconnaît le caractère, le tempérament qui sont ceux d'une personne à partir de sa manière d'agir. Hein. Elle a une certaine forme, un style d'existence qui nous renvoie à une inclination intérieure le portant à agir ainsi. En effet, la morale, l'éthique, les mœurs, selon le mot latin, éthique selon le mot grec, c'est le domaine de ce qu'on appelle en philosophie l'acte humain. Alors, l'acte humain, en philosophie chez Aristote ou Thomas, ce n'est pas seulement ce que l'homme fait, mais c'est l'acte qui procède de l'homme en tant qu'il est homme, en tant qu'il est doué de raison. Il y a des choses que je peux faire, comme par exemple me gratter la barbe, je crois que c'est ce qu'on trouve dans la somme de théologie, qui sont des réactions spontanées et pas réfléchies, hein. Mais on parlera d'actes proprement humains, procédant donc de l'homme en tant qu'homme, si cet acte est celui d'un être doué de raison, c'est-à-dire un acte dont l'homme, d'une certaine manière, est le maître, parce qu'il en procède par volonté délibérée. Alors là, les termes s'enchaînent et c'est important de bien être clair sur chacun d'eux. Hein. L'acte humain, ce n'est pas tous les actes de l'homme, mais c'est les actes proprement humains. Et donc les actes qui sont des actes raisonnés, dont l'homme est le maître, parce que il procède d'une volonté qui est une volonté délibérée, c'est-à-dire une volonté qui a procédé à une certaine délibération, la conduisant, enfin, la volonté ou le conduisant, la personne dotée de cette volonté, à tel ou tel comportement. Un acte humain, c'est-à-dire un acte proprement humain, au sens que saint Thomas donne à cette expression, c'est un acte de volonté délibérée. Et donc un acte éclairé par la raison. C'est une conduite qui n'est pas simplement physique ou naturelle, comme celle de l'électron du tétard, mais qui met en jeu raison et volonté. Une volonté, mais éclairée par la raison, et donc qui délibère avant de se prononcer pour tel ou tel choix. Le contrepoint de ces deux facultés, la raison et la volonté, ou plus généralement les appétits, hein, c'est-à-dire plus généralement que la volonté, les appétits, c'est cela qui constitue la trame de la vie humaine, au centre de laquelle le choix libre ne cesse de jouer. Le contrepoint, c'est un terme musical. Hein. Donc, les inventions à deux voix de Bach, vous avez chaque main joue sa propre mélodie. Et ici, les deux facultés jouent chacune leur propre mélodie, mais en rapport l'une avec l'autre, en espérant que le résultat soit harmonieux. Entre raison et volonté, ou plus généralement les appétits, la volonté dit plutôt l'appétit rationnel, mais le domaine de l'affectivité, du désir, est plus large que le désir raisonné comme la volonté. Hein, donc on parlera à ce moment-là d'appétit, qui conjoint donc sensibilité et intelligence dans la vie du désir. C'est cela qui constitue la trame de la vie humaine, au centre de laquelle le choix libre ne cesse de jouer. Hein, une influence très fondamentale. Hein, nous choisissons et notre choix est le fait à la fois de la raison et de la volonté. Toute la vie, toute l'expérience, toute l'histoire humaine, tous les auteurs, Homère, Shakespeare, Dante, Goethe, ne cessent de nous mettre sous les yeux le jeu de la raison, d'un côté, et des passions, de l'autre, alors de passion, on est dans l'ordre justement des appétits, hein, de la raison et de la libre volonté. Réalité tout à fait manifeste, ça c'est l'expérience. Hein, quoi qu'on pense du choix, encore une fois, on peut dire c'est une illusion, mais on en fait l'expérience. Hein. Réalité tout à fait manifeste, c'est un problème incessant pour l'homme, un problème psychologiquement et socialement actuel est incessant, il nous concerne comme il concernait Homère, Shakespeare, Dante ou Goethe. C'est simultanément sur le double registre de l'affectivité, de la volonté, de la liberté d'une part et de la raison d'autre part que se déroule la vie humaine. On a vraiment, imaginons, je vous avais déjà vu un organiste jouer sa partition, il a deux claviers devant lui, hein, et puis finalement il peut tirer des jeux pour chacun des claviers, et puis c'est lui qui choisit de jouer telle ou telle partition, ou d'improviser de telle ou telle manière, mais voilà, il le fait à partir de ces deux claviers qui sont à sa disposition et qui ont chacun leur timbre propre. Là-dessus, les positions sont combien variées. Voici par exemple Rousseau. Ah, on refait l'histoire de la philosophie et on a déjà cité Rousseau un peu plus haut lorsqu'il parlait de volonté générale, hein, cette volonté de la collectivité qui n'aurait aucune instance la dominant. De sa vie intérieure, de son caractère, de son génie, ceux de Rousseau, plus encore que de ses lectures et de ses méditations philosophiques, Rousseau recueillit cet enseignement, clair pour lui comme une vérité expérimentée, que le sentiment est en soi un principe indépendant et absolu, qu'il ne relève nullement de la connaissance intellectuelle, mais qu'au contraire il la domine, en sorte que nos idées ne sont le plus souvent que des constructions logiques des romans inventées après coup pour expliquer et justifier nos sentiments. Placé à ce point de vue, Rousseau jugea que ce que l'on appelait le progrès et la civilisation n'était en réalité que corruption et erreur, car le principe de cette civilisation était à l'inverse de l'ordre naturel, la suprématie de l'esprit sur le sentiment, de l'artificiel sur le spontané, de la science sur les mœurs. Il semble que ces lignes, donc, qui sont de Boutroux, hein, un philosophe du XIXe siècle, nous explique bien l'origine de ce qu'on appelle le romantisme, hein, avec l'importance de la passion, du sentiment sur la raison, hein, la raison desséchante, qui était plutôt pour les romantiques celle des lumières, exaltée au XVIIIe siècle. Par conséquent, ici chez Rousseau, nous avons une séparation. Il y a la vie de sentiment, la vie affective, plus ou moins instinctive, qui fait le fond de la vie humaine, et il y a toutes les superstructures, plus ou moins sophistiquées de la raison, et qui en fait corrompent l'être humain, dans l'idée de Rousseau. Un autre exemple de quoi? Eh bien, un autre exemple où on va opposer d'un côté la raison, d'autre côté la volonté. Chez Freud, chez lui, le conflit entre le ça, en allemand le es, et le surmoi, n'est-ce pas de nouveau le conflit entre la raison, alors là, ce serait le surmoi, et les pulsions inconscientes, c'est le ça, c'est le es. Hein. Et entre les deux, entre le ça, ces pulsions qui m'habitent et qui m'orientent un peu en direction que je ne choisis pas moi-même, et puis le surmoi, hein, qui cristallise sans doute des injonctions reçues dans ma petite enfance, entre le ça de mes pulsions et le surmoi, hein, des règles que mon milieu a profondément inséré dans ma psyché, il y a le moi, troisième instance, hein, qui arrive à établir un certain équilibre entre ces deux puissances. Hein. Je vais gérer cette situation inconfortable où les pulsions m'invitent à faire telle ou telle chose, mais le surmoi me retient. Donc, il faut que quand même que je satisfasse un tant soit peu mes pulsions et mon ça pour que ça n'explose pas en définitive. Et puis en même temps, ben, je ne peux pas, ça c'est pour des raisons de convenance sociale, contrevenir au surmoi. Pour Marx, troisième auteur, l'affaire est d'établir dans la société un ordre rationnel qui puisse enfin dominer, régir toutes les subjectivités affectives et égoïstes de l'homme. Alors on a l'affection qui ici est égoïste, hein, et puis d'autre part, l'ordre rationnel qui voudrait que... eh bien, chacun dispose de ce dont il a besoin pour se réaliser lui-même, je dirais. Eh bien, il faut instaurer pour cela, c'est-à-dire pour régir les subjectivités affectives et égoïstes de l'homme, un ordre rationnel extérieur, un ordre qui est celui des choses mêmes dans la production et la distribution des biens, parce que ça c'est le réel, hein, ça c'est ce qui commande en tout cas la réalité, hein, un ordre rationnel qui assimilera le jeu des appétits, des égoïsmes et des exploitations, hein, pour aboutir à une société plus juste que, en tout cas plus heureuse que la société oppressive telle que nous en faisons l'expérience actuellement. Ça, c'est la position de Marx, mais que ce soit Rousseau, Freud ou Marx, on a toujours l'opposition entre la raison d'une part et la volonté d'autre part. Cette volonté soit le sentiment, comme chez Rousseau, que ce soit les pulsions, comme chez Freud, ou que ce soit l'égoïsme qui accapare les biens chez Marx. Dans toutes ces positions, l'ordre de raison, toujours caractéristique de l'humain, ne s'intériorise vraiment pas dans la vie de l'affectivité et de la volonté. On a bien une extériorité, hein, entre raison et volonté, hein, qui sont juxtaposées et en tension, voire en conflit l'une avec l'autre. Et on comprend mieux alors les révoltes, les besoins d'anarchie, le refus de l'oppression. Les pulsions se révoltent contre les injonctions du surmoi ou les personnes opprimées se révoltent contre un ordre qui les rend malheureuses ou le sentiment se révolte contre les constructions qui ne sont que des inventions après coup de l'homme. Le problème de l'éthique est un problème fondamental. Une conduite humaine implique toujours une part de raison qu'il faut harmoniser avec l'autre part, la part de l'affectivité et de la volonté. Donc, vous disiez, donc, qu'est-ce que c'est que l'éthique? Je vous ai dit que spontanément, on dirait peut-être ben, c'est la science des obligations. Et là, on nous dit en fait, le problème fondamental de l'éthique, ce n'est pas d'abord celui de l'obligation, mais c'est celui d'une harmonisation entre la raison d'une part, qui fait de l'agir humain qu'il est humain, et d'autre part, l'affectivité et la volonté. Et de ce problème, il y a une solution difficile et pourtant la seule vraiment humaine, ça ne va pas être celui de l'exclusion de la raison par la volonté ou de la volonté par la raison, mais l'intériorisation de l'ordre de la raison dans la vie affective et volontaire. Alors comment est-ce que cette intériorisation va se produire et qu'est-ce qui va la permettre? Alors distinguons trois niveaux dans notre vie en suivant les choses comme elles sont. Au plus bas, il y a le niveau où fonctionnent les puissances de la vie végétative, la croissance, la nutrition. Le fonctionnement de ces puissances est entièrement déterminé par la nature, totalement étranger à la raison. Je digère, ça relève de ma vie végétative, mais ce n'est pas le fruit de ma délibération. Peut-être que je peux améliorer ma digestion en faisant certains, recourant à certains procédés, mais enfin, le processus s'opère sans moi quand je dors, ça continue à fonctionner tout seul. Tout en haut, il y a l'intelligence elle-même, attachée à la connaissance des choses et de leurs causes. Je fais des mathématiques, je fais de la philosophie, je m'intéresse aux réalités telles qu'elles sont, j'essaie de comprendre leur nature, leurs causes. Si la vie biologique est une vie infra-humaine, hein, je la partage avec moi qui suis homme, avec les animaux, la vie de l'intelligence prise en elle-même est une vie quasiment supra-humaine, parce que effectivement, elle semble, comment dire, m'extraire, hein, du milieu naturel qui est le mien, hein, et m'ouvrir à quelque chose de plus large que le milieu dans lequel je vis. Mais entre ces deux niveaux extrêmes, il y a la région vaste, obscure et compliquée. Il y a toute la faune de nos appétits, depuis nos concupiscences et irascibilités jusqu'à notre libre volonté. Donc, au-delà de la simple activité dite végétative et en deçà de la spéculation pure, il y a ce milieu vivant, c'est pour ça qu'on parle de faune, hein, et peut-être parfois un peu dangereux, ça explique l'image, la faune de nos appétits. Alors, nos appétits sont de deux ordres, soit ce sont des désirs qui nous orientent positivement vers une réalité, soit au contraire, c'est la réaction de mon appétit face à quelque chose qui me contrarie, hein, ou qui me menace. Et ce sont deux facultés qui sont réellement distinctes, selon Thomas d'Aquin, et qui divisent le royaume des appétits. Zone, c'est-à-dire celle de, eh bien, enfin, cette zone intermédiaire de nos appétits est une zone qui paraît, qui souvent est en effet contraire à la raison. Ça, nous le savons bien, hein. C'est précisément au centre de cette zone que la raison doit s'infiltrer, puisqu'il s'agit d'intérioriser la raison dans la vie de l'affectivité. C'est dans cette zone qui n'est ni celle de la pure raison, ni celle de la vie végétative. C'est ce centre qu'elle doit conquérir, se soumettre, non par une contrainte extérieure, sinon effectivement ce serait plus de la liberté, hein, mais par une pénétration et comme une persuasion tout intérieure. On peut, si on a une personne qui délire, on peut l'obliger à rester immobile pour ne pas se faire du mal, hein. Et donc là, on est dans l'ordre de la coercition, hein. C'est bien un principe raisonnable qui va s'introduire, l'empêcher, hein, d'agir comme elle le voudrait. Mais c'est une contrainte extérieure, alors que là, ce qu'on essaie de penser, c'est une manière pour la raison de s'infiltrer et de venir régir les appétits, mais pas sur le mode de la contrainte extérieure, de la coercition, mais sur le mode de la persuasion. Alors, le choix, c'est d'abord une expérience, la persuasion l'est aussi. Hein. On pourrait réfléchir à ce qui se passe lorsque j'essaie de persuader quelqu'un. Qu'est-ce que ça dit du rapport entre nos deux libertés? Et moi-même, je peux essayer de. Enfin, je peux essayer de me persuader moi-même. Hein. Tant que cette inviscération n'est pas faite, hein, donc inviscération, ça signifie donc insérer, mais insérer. Dans les viscères, dans le cœur, dans l'intime, dans l'intériorité, l'ordre de la raison ou bien reste un idéal séparé de la réalité concrète de notre vie affective et volontaire, ou bien l'ordre de la raison prend la forme d'une contrainte extérieure exercée sur celle-ci. Si on n'arrive pas à intérioriser la raison dans le royaume des appétits, alors soit celle-ci s'exerce sur les appétits sous la forme d'une contrainte extérieure, soit, eh bien, bon, on reste au niveau de l'idéal sans rapport avec la réalité. Comment réunir dans l'homme le réel, la vie affective et la raison? Pour Fichte et pour Kant, l'ordre réel et l'ordre rationnel restent toujours séparés. Le rationnel est une sorte d'idéal qui n'est jamais réalisé. Hein. J'ai en moi le sens moral qui se formule dans les impératifs catégoriques, mais cela me renvoie à de grandes idées, hein, l'idée de Dieu, l'idée de bien, l'idée de personne, etc. Mais on n'est pas dans l'ordre de la nature, de ce que je perçois de façon sensible. Hein, donc il y a une coupure entre l'idéal, en particulier l'idéal moral, et la réalité telle que je la perçois, telle que je la sens. Et c'est ce contre quoi Hegel, après Fichte et Kant, mais toujours dans le domaine de la philosophie allemande, a vivement réagi. Hein, l'entreprise de Kant, ça va être de concrétiser l'idéal et le réel concret. Partir de là qu'on va penser l'État, la fonction de l'État et les lois de l'État. Il faut absolument, pour Hegel, arriver à faire la synthèse du réel et du rationnel. Le jeune Marx se dit préoccupé par ce problème. Marx, qui a beaucoup lu Hegel, lui aussi dit avoir, on le cite, souffert très expressément de l'opposition entre la morale rationnelle, d'un côté, et la vie réelle de l'homme. Le malheur, c'est que Marx n'ait pas connu la philosophie morale traditionnelle, qui n'est pas, comme c'est le cas dans la philosophie idéaliste de Kant et de Hegel, une morale déductive, une morale théorique, hein, de fait. Pour préserver la pureté de la morale chez Kant, eh bien, il faut avoir un principe qu'on formule indépendamment de toute perception sensible, mais qui va ensuite s'appliquer de façon très systématique à toute la vie morale et la régir. Enfin, ça, c'est vraiment une morale tout à fait déductive, et il faut qu'elle soit déductive pour qu'elle soit vraiment morale, hein, pour Kant. Donc la philosophie morale n'est pas une morale déductive, une morale théorique. Mais c'est bien une morale pratique qui va transformer la réalité concrète, issue de l'expérience, pas seulement des idées, mais de l'expérience concrète, mais de qui? Des volontés rectifiées. Un peu plus bas, on va dire de l'homme vertueux. La morale, dans la forme aristotélicienne ou thomiste, n'est pas une morale faite de principes a priori, comme c'était le cas chez Kant, et qui tombe sur vous du haut du ciel, c'est une morale fondée sur l'expérience réelle de gens dont les appétits sont rectifiés. Suivant la morale traditionnelle authentique, quelle est la règle véritable? La règle, c'est l'homme vertueux. Et l'homme vertueux, c'est justement l'homme dans lequel l'ordre de la raison est vitalement invicéré. Dans les appétits et dans la volonté. Où est-ce qu'on va trouver cette inviscération de la raison dans la volonté? Eh bien, très concrètement, dans l'homme vertueux. Alors, Jacques de Montluçon ici introduit une image qui me semble très très éclairante. Hein. Quelle est la règle du bon style en littérature? Eh bien, cette règle, ce ne sera pas les traités des professeurs. Et on sait très bien qu'il ne suffit pas d'apprendre par cœur les règles de la grammaire, de la rhétorique ou de la prosodie pour devenir un bon écrivain. Hein, mais la règle, ça va être les œuvres concrètes, réelles des meilleurs écrivains. Si vous voulez transformer un génie en herbe, en génie pleinement déployé, eh bien, il faut lui faire fréquenter les bons écrivains ou les bons artistes. Hein, le solfège ne suffit pas, ou la grammaire ne suffit pas, ou les traités d'harmonie ne suffisent pas, ou de rhétorique ne suffisent pas. C'est l'exemple concret d'une œuvre réelle produite par un homme, non seulement enfin, oui, un homme de métier, un homme qui possède bien son métier, qui devient la norme. De la même façon, en éthique, en morale, ce sera non pas un catalogue de principes abstraits, mais l'exemple concret de l'homme vertueux qui sera la règle, la norme. Comment cette intériorisation de mesure de la raison est-elle possible dans la vie affective et dans celle du vouloir? Il faudrait, pour le voir, retrouver la notion si désastreusement perdue de l'appétit. Aujourd'hui, on n'en saura pas plus. On constate finalement que la raison est intériorisée dans la volonté chez l'homme vertueux et que c'est l'exemple de l'homme vertueux qui va être la norme de l'agir. Comment cela a-t-il pu se produire en l'homme vertueux? Eh bien, il faudrait pour cela développer une théorie de l'appétit. Résumons. L'éthique, l'acte humain, se définit par le jeu de deux éléments, la raison d'une part, les appétits de l'autre, et la perfection de l'éthique, de la vie morale, se réalise dans l'intime symbiose de ces deux principes. Symbiose signifie vraiment une unité qui aboutit à une forme vivante. Qu'est-ce que choisir? On a demandé en clair sur l'éthique, sur le but de l'éthique, sur la conciliation qu'elle s'efforce d'opérer entre raison et volonté. On a vu que ce qui va nous permettre de nous saisir de la réalité et de la liberté, plutôt que le principe de domination, ce sera la réalité même du choix dont nous faisons l'expérience. Si le choix est si essentiellement une réalité éthique ou morale, c'est précisément à cause de la conjonction étroite dans sa structure, dans son mouvement, de la raison et de la volonté. C'est d'abord un fait que raison et volonté, ça marche ensemble. Et ce qui nous montre, c'est l'expérience du choix. Encore une fois, on part de là. On ne part pas d'une idée, d'une obligation abstraite, mais d'un fait de conscience, ici, enfin, du fait que nous montre la conscience, qui est celui du choix, ou concrètement, existentiellement, l'union de la raison et de la volonté s'opère. Leur combinaison y est tellement étroite qu'à première vue, il est difficile de dire si le choix est en son essence un acte de l'intelligence, de la raison, ou un acte de la volonté. En effet, observons quelqu'un choisir un foulard, par exemple. On regarde, on palpe, on essaie, on tourne, on retourne. Donc ça, c'est l'intelligence qui est en cause, la connaissance qui est en activité. Il s'agit de discerner entre différents objets que l'on examine, que l'on compare, ce qui répondra le mieux à ce que l'on veut faire. On balance entre les avantages et les inconvénients. On dirait même que les impulsions, les mouvements affectifs sont provisoirement tenus en suspens. Alors ça, je sais très bien parce que moi, je sais pas, je suis toujours quelqu'un qui me jette sur ce qui me plaît, n'est-ce pas? Je suis pas très sage quand il faut faire des achats. Je n'ai pas cette patience de la bonne ménagère qui, au lieu de se jeter sur le premier produit qui l'attire, va avoir la patience de passer d'une boutique à l'autre et de comparer les avantages respectifs de chaque produit. Et donc, on voit bien que là, on retient l'impulsion, hein, on le retient pour qu'un jugement puisse s'exercer. Si bien qu'Aristote, abordant le choix, commence par hésiter, est-ce un acte de l'intelligence ou un acte de la volonté? Un acte de volonté raisonnée, donc un acte de volonté éclairé par la raison, ou un acte d'intelligence, l'intelligence qui commande la volonté? Sur les termes même des articles de la Somme de théologie consacrés à cette question. Finalement, il faut y voir un acte de la volonté, tranche Aristote Thomas après lui. En effet, il se détermine et s'exprime ainsi, j'aime mieux cela, c'est-à-dire j'aime, c'est le consentement du vouloir à un bien que l'on préfère. J'aime, c'est ma volonté qui se porte finalement sur tel ou tel objet préféré. C'est l'acte d'une volonté, mais d'une volonté subordonnée à l'intelligence. Une volonté qui s'est laissée conduire par l'intelligence. On parlait tout à l'heure de volonté délibérée. Nous pouvons dire qu'en substance, choisir est un acte de la volonté, mais de la volonté gouvernée par l'intelligence. Et quand la lumière, le discernement de celle-ci sont insuffisants, eh bien, nous choisissons mal, quitte après coup à nous en mordre les doigts. Laissé à lui-même, notre appétit va droit à ce qui l'intéresse, à ce qui l'attire. Or, dans le choix, justement, notre volonté ne s'abandonne pas au premier mouvement d'impulsion, elle soumet son vouloir à une influence supérieure, le jugement de la raison, et c'est ainsi que la liberté de choisir nous ouvre la possibilité d'entrer d'une façon plus pure et plus profonde dans le règne de l'amour. Alors là, c'est une de ces phrases qui nous ouvre une perspective qui nous permet de faire l'effort de tenir encore quelques minutes à l'écoute de notre auteur, mais qui nous envoie déjà une lumière d'en haut, hein. La liberté de choisir nous ouvre la possibilité d'entrer d'une façon plus pure et plus profonde dans le règne de l'amour. Encore une fois, c'est la considération de l'amour qui finalement nous permettra de concilier intelligence et volonté. L'expérience que nous faisons de la liberté de choix nous ouvre la possibilité, hein, d'avancer plus purement et plus profondément dans le règne de l'amour. Malheureusement, je peux aussi utiliser ma raison, hein, pour en vue du mal. C'est pour ça que l'auteur dit bien prudemment, c'est la liberté de choisir nous ouvre la possibilité d'entrer, mais je peux aussi en abuser pour faire le mal. L'objet du choix. Alors, pour voir les choses encore un peu plus distinctement, plus clairement, il faut considérer non plus le choix en lui-même, hein, mais l'objet sur lequel se porte le choix. D'abord, c'est un moyen. Et nous comprenons quand nous réfléchissons à l'intervention de la raison. Le raisonnement est un mouvement de la pensée, hein, on est bien dans le registre de la pensée, qui s'appuie sur un principe stable, immobile, pour passer à une conclusion. Je pars de quelque chose qui me semble assuré pour aller plus loin. Dans le choix, le principe immobile où s'appuie la raison, c'est quoi? C'est le but à atteindre, la fin, la finalité. Par exemple, le chef de l'armée, ce qu'il veut, c'est la victoire. Alors ensuite, il va choisir de mobiliser tel régiment plutôt que tel autre, il va mettre tel soldat à tel poste, il va choisir tel terrain pour le combat plutôt que tel autre, mais son but, c'est la victoire et tous les choix qui l'opèrent sont de l'ordre du moyen. Et donc la raison, elle s'exerce dans le choix des moyens en vue de la finalité. Pour le médecin, la guérison, pour tout le monde, le bonheur. Ah, ça c'est la fin des fins, finalement. C'est mon bonheur, ce qui va faire mon bonheur. Cette fin, l'intention de cette fin n'est pas mise en question. C'est pas là-dessus que je délibère. Tous les hommes veulent être heureux, disait Augustin. Mais le général ne se demande pas s'il doit gagner la bataille, comme l'homme ne se demande pas s'il veut ou pas être heureux. Ce qui est mis en question, ce qui relève du choix, ce sont les moyens proportionnés au but que l'on veut atteindre, qui vont effectivement nous permettre de rejoindre le but voulu. Entre divers dispositifs tactiques ou stratégiques, lequel adopter pour vaincre? C'est la question du général. Le choix se rapporte donc et s'appuie à quelque chose de plus haut que l'objet même du choix, à une valeur d'ordre supérieur. La santé est une valeur supérieure au remède. Je choisis le remède pour la santé. Comme l'ami est une valeur supérieure au bouquet. Je choisis entre deux bouquets celui qui me semble le plus beau, mais c'est pour faire plaisir à mon ami. C'est l'intelligence, la raison qui voit, qui mesure la supériorité, en quelque sorte, l'absolu de cette valeur. Bien sûr, c'est la raison d'abord qui appréhende la victoire, qui appréhende l'ami. Et c'est l'intelligence encore, la raison, qui en fonction de cet absolu qu'elle discerne, mesure la relativité des moyens, leur côté positif et négatif. Hein, bon, ça me permet plus ou moins d'atteindre, plus ou moins bien d'atteindre le but ultime qui est le mien. Haussant ainsi la volonté à leur égard au niveau d'indifférence, c'est-à-dire que visant un bien, je m'interroge sur le moyen le meilleur pour l'atteindre, et donc un temps au moins, je me garde en équilibre, en état d'indifférence entre deux moyens. Ou bien, ou bien. Et puisque l'on se suspend un bien par l'amour, le bien ultime, le bien visé, on a parlé de victoire, on a parlé d'amitié, on a parlé de santé, on a parlé ultimement de bonheur, puisque l'on se suspend un bien par l'amour, la liberté de choisir est inspirée par l'amour de la fin, du bien supérieur auquel on s'attache. Nous voici vraiment en train de mettre un contenu à la notion même d'amour, hein, cet amour qui s'attache à la fin, hein, au bien supérieur. Cet amour de la fin incitera la raison à rechercher entre les autres le moyen préférable, selon la hauteur de ce bien, selon la profondeur de l'amour que l'on aura pour ce bien, le choix sera plus ou moins délicat, plus ou moins généreux. Entre une vie longue et tranquille mais obscure et une vie brève mais glorieuse, Achille sacrifie la première et choisit la seconde. Voici un autre aspect de l'objet du choix qu'il faut bien préciser. Nous ne pouvons pas choisir n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas choisir? Je vais passer rapidement parce que c'est vraiment simple et il faut qu'on ait le temps de revenir là-dessus. On ne choisit pas ce qui est nécessaire, je pense que tout le monde comprend, et on ne choisit pas non plus l'impossible. Voilà. Entre le nécessaire et l'impossible, qu'est-ce qui nous reste à choisir? Eh bien, le possible. Mais non pas n'importe quel possible. Ainsi, je ne peux pas choisir qu'il pleuve demain. Donc, je ne peux pas choisir le nécessaire. Je ne peux pas choisir l'impossible. Je ne peux pas choisir non plus le possible qui ne relève pas de mon pouvoir. Autrement dit, de l'élimination que nous venons faire, que nous venons de faire, pardon, il nous reste juste ceci. Nous ne pouvons choisir que ce qui dépend de nous. Ou plus précisément, comme le dit Aristote, il n'y a de choix des choses, il n'y a de choix que celui des choses que l'on pense pouvoir produire par soi-même. Des choses qui dépendent de moi. Des choses que je puis produire, pas seulement au sens où je peux les fabriquer, hein, mais où je peux les faire venir à l'existence. Le choix porte toujours sur une action en notre pouvoir. Conclusion, hein, lumineuse, le choix porte toujours sur une action en notre pouvoir. Ainsi, l'objet du choix, c'est un moyen, en vue d'une fin, et c'est un moyen, deuxième point, en B, qu'il dépend de nous de mettre en œuvre. Nous voyons donc se réunir, s'harmoniser dans le choix, les deux pôles qui définissent la dignité et la perfection de notre nature humaine et de notre vie morale. Pôle d'abord de la finalité, en définitive du bonheur, fin vers laquelle toutes les autres convergent et à laquelle notre nature est ordonnée, terme ultime du dépassement auquel elle est appelée. Et puis l'autre pôle, qui est le pôle de la finalité, du bonheur, et puis l'autre pôle, cette maîtrise que l'homme exerce sur ses propres actes. On retrouve ici ce pouvoir. L'indépendance de ce pouvoir dont nous étions partis, hein, dont nous avons parlé plus haut, et que l'on présente souvent comme le seul élément constitutif de la liberté. On y a rajouté le choix, et l'examen de ce qu'était le choix nous a conduit à élargir notre conception de la liberté de telle manière que se rencontrent dans la liberté l'exercice de la raison et l'exercice effectif aussi de la liberté, mais portant non pas sur tout, pas sur le nécessaire, pas sur l'impossible, pas sur toute forme de contingent, de possible, mais sur l'action qui en montre le pouvoir. En effet, n'y a-t-il pas incompatibilité entre les deux pôles que nous venons de repérer? dans l'objet du choix, le pôle de la finalité et le pôle du pouvoir. Nous avons noté que la fin comme telle n'est pas l'objet du choix, elle est présupposée par celui-ci. Le général, une fois qu'il est général, il décide, il ne choisit pas de vouloir la victoire ou pas. Le médecin, si c'est un bon médecin, une fois qu'il est médecin en tant que médecin, il ne choisit pas de savoir s'il veut la santé de son patient ou pas. L'homme, en tant qu'il est homme, ne choisit pas de vouloir être heureux ou pas. Autrement dit, pour choisir, il faut commencer par se mettre sous la dépendance d'une fin. Et on voit comment des choses qui nous semblaient inconciliables, incompatibles, tout à fait paradoxales, s'allient en fait dans l'expérience, mais aussi dans l'intelligence qu'on peut avoir de cette expérience. Si de fin en fin, nous remontons jusqu'au bonheur, notre fin ultime qui commande toutes les autres, c'est par notre nature même, abstraction faite de toute liberté, antérieurement à toute faculté de choisir, celle sous laquelle nous nous trouvons placés dans une dépendance irréfragable. Je dis, bon, pour être général, il faut s'être engagé dans l'armée. On choisit d'être général. Une fois qu'on est général et si on habite vraiment sa fonction, eh bien, la finalité, ça va être celle de la victoire. Ensuite, je vais choisir les moyens qui lui conviennent. On peut avoir le même raisonnement à propos du médecin et de la santé. En tant qu'homme, eh bien, je reçois la nature qui est la mienne, qui m'oriente vers le bonheur. Il va falloir discerner en quoi consiste mon bonheur. Hein. Mais la nature, je la reçois, je suis placé dans une dépendance irréfragable à son égard. Alors, affranchissons notre liberté de toute dépendance de ce genre, qu'elle s'émancipe de toute finalité, qu'elle se concentre tout entière dans l'indépendance absolue de son maîtrise et de son pouvoir. Ça, c'est le rêve de. Peut-être d'existentialiste comme Jean-Paul Sartre. Hein. Mais alors, dans ce cas, nous la sortons du même coup, la liberté, du champ de l'acte humain, de l'acte moral, qui se définit simultanément et par l'ordonnance à une fin et par la maîtrise de nos actes. Pas seulement par la maîtrise de nos actes, mais par l'ordonnance à une fin. Or, nous avons vu que la liberté de choisir appartient essentiellement à l'ordre moral. Mais peut-être les deux pôles, apparemment incompatibles, ne sont-ils pas inconciliables, celui donc de la fin et celui de la maîtrise du pouvoir? Peut-être même s'harmonisent-ils profondément? Plotin, donc un auteur néo-platonicien du 4e siècle, semble nous le dire plutôt du 3e siècle, je pense, 5e, 4e, je me trompe, Jean-Louis me lira, me rappellera, Plotin semble nous le dire dans ces mots, c'est la nature du bien et d'être en lui-même le désirable et de donner aux autres de dépendre d'eux-mêmes. C'est la nature du bien et d'être en lui-même le désirable, point de vue de la finalité, et de donner aux autres de dépendre d'eux-mêmes. Le vrai bien, hein, je le désire, donc il est ma propre fin, mais il me donne, peut-être à travers le désir qu'il suscite en moi et l'intelligence qui l'accompagne, il donne aux autres de dépendre d'eux-mêmes. L'amour ne serait-il pas la clé de cette antithèse entre les deux pôles, plus loin, nous essaierons de le voir. Voilà. Nous avons donc parcouru ce texte. J'espère que ça nous a apporté quelques lumières.
Vous avez la parole si vous souhaitez poser une question, réagir ou un commentaire. N'hésitez pas.
Gilles, c'est Renaud.
Oui, Renaud.
Moi, la question que je me pose, c'est ce que tu viens d'exposer très clairement, ça s'applique aux libertés individuelles. Est-ce que ça s'applique aussi aux libertés collectives dans le domaine du politique, par exemple? Quelle est la place du débat là-dedans?
Oui, je pense que c'est une question. Je répondrais que pour répondre à cette question, il fallait d'abord poser les bases qu'on vient de poser et que on parlera du débat et de la dimension politique de la liberté la prochaine fois. C'est ce qui est annoncé dans le plan.
C'est une bonne introduction et après la séance suivante, une bonne question.
Mais enfin, c'est bien, mais nous faisons l'expérience déjà individuellement, en tout cas, d'un débat intérieur, mais qui s'appuie sur les débats auxquels la vie sociale nous donne accès, je dirais, hein. Donc, les deux dimensions ne sont pas séparées l'une de l'autre. Le débat, c'est la délibération, hein, c'est ce qui aurait correspond ici à la délibération. Ce qu'on peut dire à la lumière du texte que nous avons étudié maintenant, c'est que justement le débat politique pour être vraiment humain et se passer dans les meilleures conditions doit éduquer les personnes de telle manière que dans leur agir, elles agissent de façon vraiment, vraiment libre, c'est-à-dire en discernant ce qui fait vraiment leur bonheur et en choisissant dans les meilleures conditions les meilleurs moyens pour obtenir ce bonheur. Mais il y a sans doute d'autres choses à dire sur le lien qu'on peut faire entre ce qu'on vient de dire d'un point de vue effectivement plutôt individuel et puis la question du débat politique. Je pense qu'on doit réfléchir à ce qu'est le bien commun. Et puis aussi ce qu'est l'éducation. Alors là, on va nous en parler à l'occasion de la conférence de l'année. Louis, vous voulez peut-être dire des choses là, c'est votre domaine. Alors, vous n'avez pas mis votre micro, Louis. Voilà. On ne vous entend pas?
Voilà, ça
Ok,
y
c'est bon, j'ai mis le micro. Ben, j'ai pas grand-chose à. C'était très bien, là. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai peut-être une question d'approfondissement concernant le Dieu de Descartes. Ça paraît à première vue vraisemblable que Dieu ne dépend de rien et tout ça, mais comment on répond à ça, dans le sens que bon, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir un Dieu non plus qui a une volonté purement arbitraire, mais en même temps, c'est peut-être un point qui aurait besoin d'être approfondi un peu, là.
Ben, sans avoir beaucoup préparé ma réponse, mais je dirais que Dieu agit en fonction de ce qu'il est, hein, et que il ne peut pas agir contrairement à ce qu'il est. Mais dire cela n'est pas affirmer de lui une imperfection, mais au contraire, lui attribuer une perfection. Ce que la Bible, par exemple, appelle la fidélité de Dieu, hein, c'est que, oui, Dieu agit toujours en parfaite cohérence avec ce qu'il est. Hein, il ne peut pas Dire le contraire, ce serait introduire en lui la possibilité d'un changement. Introduire du défaut en lui, mais si Dieu est vraiment plénitude de vie, plénitude d'être, il ne peut pas. Il ne peut pas ne pas agir conformément à ce qu'il est. Hein. Il reste libre dans la bonté qu'il montre à l'égard de ses créatures, parce qu'il aurait pu ne pas les créer, il en fait toujours davantage pour elles. Donc, il est libre à l'égard de ses créatures, mais dire qu'il est libre par rapport à lui-même, en fait, c'est introduire en lui une imperfection, une défaillance, plutôt que lui respecter vraiment sa toute-puissance, comme le voulait Descartes. Je dirais, alors maintenant, qu'est-ce qui. Ce que je dis est assez trivial, finalement, hein. Donc, qu'est-ce qui a conduit à cette position les auteurs nominalistes? Parce que je pense que Guillaume d'Occam disait déjà des choses comme cela au Moyen Âge. C'est le sentiment d'une réalité, je pense, qui transcendait toujours l'idée que je pouvais m'en faire, quoi, hein. Et donc une certaine déconnexion entre le réel et puis le discours humain sur le réel. En théologie, par exemple, on aura une théologie comment dire, insistera beaucoup sur le mystère, mais comme quelque chose d'obscur, hein. Par exemple, la prédestination divine, c'est bien quelque chose d'apparemment scandaleux, mais puisque c'est la révélation qui me l'apporte, bon, bah, je me soumets sans que ça me plaise beaucoup à cette révélation. Donc voilà, on a une pensée nominaliste qui se développe conjointement à une complexification de la logique à la fin du Moyen Âge et qui aboutit donc à ces positions. Alors voilà, je pense qu'il y a même des penseurs déjà dans le monde arabe qui devaient avoir aussi cette même conception d'un Dieu que rien ne déterminait, pas même le principe de non-contradiction, donc un Dieu qui aurait pu et qui pourrait être injuste ou absurde.
C'est finalement mieux que ça. Finalement, c'est dire qu'il fait une œuvre imparfaite.
Oui.
Qu'il est imparfait dans son œuvre si ça n'est pas du tout rationnel, pas du tout.
Oui, en fait, ça aboutit à une conception, soit deux choses, soit une conception finalement amoindrie de l'être de Dieu, soit on insisterait sur sa transcendance, sur le fait que Dieu n'est vraiment pas l'idée que nous pouvons nous faire de lui et que notre idée de la perfection de l'être divin est bien inadéquate, voilà, à la transcendance du divin, mais ça aboutit finalement à rendre difficilement pensable la communion avec Dieu dans la sagesse. Alors on est en théologie, à ce moment-là, on entre en théologie, mais il y a une question qui me semble connexe, qui est celle de l'impeccabilité de la volonté du Christ. Est-ce que le Christ aurait pu pécher? Et alors, si on pose cette question-là, on aura tendance à dire, mais oui, le Christ la Vierge Marie, même après, avec cette grâce de l'Immaculée Conception, aurait pu choisir le mal, parce que ce sont des êtres libres. La position de Thomas serait de dire au contraire, la volonté affermie dans le bien, dans la grâce, ne peut plus faire le mal, mais c'est une perfection. Ça n'est pas un défaut. Alors, à partir de cette question, on comprend un peu mieux les choses. De fait, il est de plus en plus difficile pour l'homme vertueux de faire le mal. Pas d'un point de vue technique, mais quand il est confirmé dans le bien, dans la grâce, d'une certaine manière, il est de plus en plus fixé dans le bien. Mais ce n'est pas une limite pour lui, c'est au contraire un élan plus fort vers le bien, vers la plénitude de l'être. C'est un déploiement de vie. Ce n'est pas cette perfection du saint, et donc ultimement, la sainteté même. Du Christ ou des bienheureux, hein, ceux qui, les saints dans la gloire, ne peuvent plus faire le mal, mais cette impossibilité de faire le mal n'est pas un défaut, une sorte d'amoindrissement de l'être, de fatigue. Voilà, ils ne peuvent plus faire le mal parce qu'ils sont fatigués. Mais au contraire, c'est parce que leur élan qui les pousse vers le bien est plus fort, plus intense. C'est à partir de la théologie, essayer d'écrire la philosophie. Mais bon.
Ouais. Ouais. Comme par rapport au principe de contradiction, je pense que Saint Thomas a une réponse plus philosophique là, qui serait de dire une contradiction, c'est un non-être. Dieu peut tout, mais il ne peut pas ce qui n'a pas d'être, ce qui n'a pas d'existence. Donc, en ce sens-là, la toute-puissance de Dieu se concilie, sa liberté souveraine se concilie tout à fait avec le fait qu'il ne peut pas vouloir l'impossible, parce que dans le fond, ce n'est pas un vrai vouloir, là. Il peut tout dans la ligne de l'être, mais pas du nom.
Oui, tout à fait, c'est très clair et ça suffit d'une certaine manière.
Voilà. Puis, ben, en complément à ce que vous avez dit, la simplicité de Dieu fait que c'est comme si Descartes et ceux qui pensent comme lui oubliaient que Dieu est, bon, il est. Selon ce qu'il est, ben ce qu'il est, c'est en même temps sa sagesse. C'est pas seulement sa puissance, sa volonté, sa bonté, mais c'est sa sagesse. Alors, on peut pas dissocier en Dieu sagesse et volonté, là. Ce qui est très rassurant d'ailleurs. Sinon, ça ferait peur, là, d'être soumis à un être où ce serait l'arbitraire, là. Chez les musulmans, on a l'impression que c'est un peu comme ça, hein, Allah et une volonté. Mais dans le christianisme, l'exemple d'Abraham est un peu. Ça va presque. Il faut l'interpréter comme faut, c'est délicat, là, parce que il fait un acte qui paraît contraire à la sagesse, au bien, là. Et pourtant, bon, c'est le. C'est important, c'est le père de la foi, là, mais c'est ça.
Oui, alors il y a toute une tradition interprétative pour justifier le comportement d'Abraham. Ensuite, voilà, disant que la voie qui le poussait à sacrifier son fils Isaac n'était pas celle de Dieu, mais plutôt
Ah
du
ouais.
diable. Et finalement, bon, le chapitre se termine par l'interdiction du sacrifice. Donc, mais c'est vrai que chez Kierkegaard, dans ce qu'on nous a rappelé de lui, il semble que voilà, ce soit, il est dans la sphère religieuse, dépassé la sphère de l'éthique, mais presque en la contredisant.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Anita?
Dieu agit en cohérence avec le sujet. Il me semblait que tout ce qu'on a dit aujourd'hui pouvait nous aider peut-être à comprendre la liberté de Marie. Certains disent, mais en fait, la Vierge Marie, on aurait très bien pu dire non. Et il me semble, si on reprend ce que vous dites là de Dieu, l'Immaculée elle-même, ou ce que vous dites de l'homme vertueux, Marie répond, agit en cohérence avec ce qu'elle est en disant oui. Et dans ce sens-là, elle ne pouvait pas dire non. Je vous dis ça parce que il y a un auteur italien qui a fait tout un roman sur Marie a dit oui, mais il y en a une autre avant qui avait dit non. C'est pour ça que Dieu a choisi Marie. Et tout son roman est construit là-dessus. Et moi, ça m'est très désagréable, en fait, ce roman. Il m'a demandé mon avis. Les premières pages me semblaient imbuvables, justement, parce que ça ne prend pas en compte cette action. Enfin, j'avais une autre question aussi sur ça. Dans le passage qui parle de la raison qui doit s'infiltrer, la persuasion intérieure, l'inviscération et non pas une contrainte extérieure. Vous l'avez nommé, hein, mais il y a le problème de l'éducation. Aujourd'hui, c'est grève des profs chez nous. Mais quand j'étais prof, on avait vraiment une difficulté à faire intérioriser aux élèves ce bien auquel ce bien qu'on leur propose et en essayant de renoncer au maximum à la contrainte extérieure. Mais on était tout le temps sur le fil du rasoir.
La persécution
Entre la persuasion et la contrainte extérieure.
Oui, c'est très clair à partir d'une expérience à la fois concrète et puis décisive pour notre vie commune, quoi. Ce que nous venons de dire. Je pense que Louis nous en parlerait lorsqu'on parlera de l'éducation. Hein. Là, on est au cœur de. On peut dire qu'est-ce que c'est que l'éducation? Quel doit être le but de l'éducation? Peut-être que nous n'avons pas, lorsque nous y réfléchissons justement, toutes les données du problème en tête, d'où l'intérêt de notre. On peut avoir des. Voilà.
J'ai une question.
Oui.
Alors c'est toujours le même thème, mais si Dieu nous a créés à son image, du coup, quelle est la liberté, quelle est la liberté de l'homme par rapport, voilà, quelle est la liberté de l'homme? Et puis, et oui, enfin bon, ça revient un peu à ce qu'on a dit, mais quelle a été aussi la propre liberté de Dieu dans le choix de nous créer comme ça? Est-ce que, voilà, voilà, bon, enfin, c'est des questions, de toute façon, tout le monde se pose et auxquelles on ne peut pas, enfin, c'est difficile de répondre. On aura la réponse dans un monde meilleur, mais, comment?
Il a peut-être quelques éléments à nous donner quand même.
Non, Véronique, je pense que les questions proposées sont très profondes, hein. Mais effectivement, on peut essayer d'y répondre. D'abord, pour un argument d'autorité, dans la somme de théologie, Thomas dit d'abord de l'homme qu'il est créé à l'image de Dieu en tant que c'est un être libre. C'est-à-dire que ce qui en nous est image de Dieu, c'est notre liberté. C'est le fait que nous soyons libres. Et donc, des êtres raisonnables, parce qu'on ne peut pas être, c'est ce qu'on nous a expliqué, il ne peut pas y avoir de liberté sans exercice de la raison. Mais c'est ce qui. C'est justement ce en quoi nous sommes des êtres libres. Mais pourquoi est-ce que ça nous apparaît comme. Le fait d'être à l'image d'eux nous apparaît comme quelque chose de limitatif. Alors peut-être que plus immédiatement, on peut dire cela des enfants, de nos enfants naturels ou des enfants, des disciples, etc. Est-ce que le fait d'être à l'image d'eux doit être ressenti comme une forme de brimade ou d'humiliation, ou au contraire comme l'occasion d'une relation féconde, d'un lien, où il est donné à l'homme ou à la femme de devenir le modèle de l'autre en l'orientant vers un bien plus haut celui que l'image, le reflet que je suis moi-même. Quand je dis ça, je découvre, parce que je ne le connaissais pas bien, vous l'avez peut-être lu et vous connaissez peut-être mieux que moi, le philosophe et l'anthropologue René Girard, qui a beaucoup réfléchi à la dimension mimétique du désir et donc à la violence comme étant le fait de personnes qui deviennent rivales dans leur désir, à travers leur désir, en disant le désir n'est pas seulement le désir d'un objet, mais le désir de l'être qui désire l'objet en même temps que moi. Et il a développé à partir de là une pensée qui est une apologie, une défense du christianisme en insistant sur sa singularité, parce que, nous dit-il, dans le christianisme, on dénonce donc la violence exercée sur les victimes. Parce que les victimes innocentes, mais qui sont devenues victimes parce que dans des crises, la société violente n'a plus d'autre issue que de décharger sa violence sur la victime innocente. Que le christianisme, la religion de la Bible, le christianisme sont les premiers à dire stop et à dévoiler la vérité de l'innocence de la victime. Mais alors, tout ça, c'est donc, il pense le mimétisme du désir comme la source de la violence. Et quoi qu'il en soit de la théorie générale et voilà, de René Girard, ça veut dire que le mimétisme est d'abord une bonne chose, l'imitation est d'abord une bonne chose, ce qu'il dit lui-même, hein. Ce qui fait ce qui fait l'humain, peut-être pas le plus profond, enfin, ce qui en tout cas le singularise, c'est le fait qu'il peut se donner un modèle. Soit le modèle est un bon modèle, c'est-à-dire un modèle qui l'accompagne dans l'épanouissement de lui-même, soit le modèle devient un rival. Et malheureusement, on voit des choses comme ça, je crois, dans les relations entre générations, entre maître et disciple, le maître ou le parent qui devrait être... qui devrait désirer l'épanouissement de son type, son enfant, devient un obstacle sur la route, souvent pour des questions de jalousie. Voilà. Alors, vous voyez, je pense que nous devons consentir d'être à l'image de Dieu. C'est pour notre plus grand bien. Nous devons nous réjouir d'être à l'image de nos parents. Et il faut désirer que cela soit une source de progrès. Hein, voilà, il faut désirer que ce soit une source de progrès. Donc, je trouve que votre question est intéressante parce que voilà, Thomas spontanément nous dit, mais voilà, je suis à l'image de Dieu en tant même que je suis libre. Qu'est-ce qui fait que dans notre mentalité, le fait d'être à l'image d'eux risque de limiter ma liberté? Mais c'est peut-être au contraire une ressource qui me lie à l'autre, hein, que j'imite et en l'imitant, ben je me grandis moi-même, hein, voilà.
Merci beaucoup. Votre réponse m'éclaire beaucoup. Merci beaucoup, c'était super.
Une dernière question avant d'arrêter, est-ce que il y en reste une qui vous brûle la langue.
Quand on dit l'amour de la faim inspire, il y a l'amour de concupiscence, il y a l'amour de bienveillance. Est-ce que ça fait une différence importante là, en rapport à ce que vous avez dit sur le choix, là?
Ce que vient de dire du désir ou plus en amont encore?
Plus en avant, je pense.
Ben, il y avait un lien que vous faisiez entre le choix et l'amour, parce que le choix dépend de la fin du bien, le bien qui inspire. Donc, il y a un amour de la fin là, qui est sous-jacent au choix. Mais quand on
Oui.
pense à l'illustrer dans des cas plus précis, on pense à ça peut être l'amour de la pizza là, ou l'amour un amour de simplement de concupiscence. Ça peut s'entendre de ce côté-là, mais j'imagine que ça peut aussi s'entendre d'un amour plus élevé, là, d'un amour de bienveillance.
Cela suppose que mon désir se porte vers l'amour lui-même.
Vers l'amour lui-même.
Vers l'amour lui-même, c'est l'amour, oui, l'amour comme l'amour entendu comme bonté. Je crois que la bonté, nous pouvons la désirer pour elle-même. Et en définitive, un croyant dira que c'est la bonté même de Dieu, quoi. Et c'est cette bonté qui devient ce que je désire, donc qui est l'objet, en ce sens-là, le terme de concupiscence est souvent négatif, hein, mais qui est l'objet d'un désir pour
Oui.
mon propre épanouissement, mais c'est un désir qui se satisfait dans la bienveillance à l'égard de l'autre. Je pense que là, c'est la clé de voûte, finalement, hein.
Oui.
C'est cette contemplation que l'on a du Dieu de bonté et du désir que nous avons de lui qui nous rend capables d'amour, de bienveillance, désintéressé, alors jusqu'au sacrifice de moi-même. Mais ce sacrifice de moi-même n'est pas anéantissement absurde, il est accomplissement de moi parce que il répond à un appel. Qui est l'appel de la bonté elle-même. C'est pour ça que je dis, encore une fois, comme théologien, je vais peut-être trop vite, au regard d'un philosophe, je dirais, c'est pour moi une façon, en tout cas, de concilier amour de concupiscence et amour de bienveillance, donc en pensant que les deux ne s'opposent pas nécessairement, mais qu'en définitive, ils doivent se concilier l'un et l'autre. Ou encore, pour le dire autrement, peut-être plus simplement et plus philosophiquement, au fond, même l'amour de bienveillance et suppose toujours, parce que sinon c'est pas formidable, suppose toujours une certaine complaisance dans l'autre auquel je veux et auquel je fais du bien. Si je fais du bien à quelqu'un sans me complaire aucunement en lui, sans me réjouir de ce qu'il est, donc. Bien, mon amour, ça pourrait être de l'altruisme, mais sec, quoi, hein,
Ouais.
voilà. Donc.
Bien, écoutez, merci beaucoup. Il est temps d'arrêter et merci à tous de votre participation. Et donc, on se retrouve, comme je rappelais au début, on se retrouve le 14 mars et non pas le 7, comme ça avait été annoncé, et le 21 mars pour les deux autres ateliers. Sur ce thème, sur ce texte de la liberté.
Liberté
Donc,
politique, la prochaine fois.
voilà, liberté politique la prochaine fois, qui d'après, ce sera les éléments essentiels de la pandémie, je crois. Et puis donc, comme le disait Fergie, il y a une conférence prévue le 16 mai, on en parler, où Louis Brunet nous parlera d'éduquer à la liberté, c'est ça?
Ouais.
Voilà. Donc, merci à
Merci
tous.
beaucoup. Merci
Et
beaucoup.
à bientôt.
Merci infiniment, hein, frère.
Merci, frère Gilles.